Bienvenue sur Mediapart et dans notre émission Les Voix du Pouvoir. Le populisme est-il encore une voie stratégique pertinente à gauche? Est-il seulement encore emprunté comme voie stratégique? C'est ce dont on va parler avec l'auteur de Populisme de gauche, une sociologie de la France insoumise. C'est à la découverte et c'est publié par Manuel Cervera-Marzal. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'Université de Liège. Et on va donc évidemment beaucoup parler du cas français à partir de votre travail. Mais votre réflexion, elle est aussi comparative. Et c'est pour cela que j'ai convié Arthur Boriello. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche également à l'Université Libre de Bruxelles et vous avez récemment conduit une série d'entretiens avec les grandes figures intellectuelles qui pensent le populisme aujourd'hui, donc ça va permettre aussi d'éclairer tout le travail qu'a accompli Manuel sur la France insoumise. Alors je commence avec vous, c'est un livre qui tombe à pic évidemment parce que on est en train de vivre les débuts de la présidentielle de 2022, c'est la première enquête sociologique de grande ampleur sur la France insoumise, mais vous remarquez vous-même à la fin du livre que Jean-Luc Mélenchon ne parle maintenant plus que d'union populaire. On se demande donc si vous n'avez pas fait la sociologie d'un parti éphémère. Et surtout, on a des commentateurs qui, depuis 5 ans, depuis la campagne de 2017, qui est un peu l'acmé de cette stratégie populiste de gauche, beaucoup de commentateurs se sont perdus en conjecture sur est-ce qu'il abandonne le populisme, est-ce qu'il revient au populisme. Alors, est-ce qu'il l'a jamais abandonné, cette voie populiste, depuis 2017 et aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'il trace toujours ce sillon-là du populisme de gauche?
Alors, pour savoir si il est en train d'abandonner la stratégie populiste en délaissant la France insoumise pour créer une nouvelle organisation, mouvement, c'est pas encore trop ce que ce sera, mais visiblement, effectivement, l'Union populaire est amenée à remplacer la France insoumise. Il faut se demander, en fait, peut-être à quel moment Jean-Luc Mélenchon a adopté cette stratégie populiste. Et en réalité, on parlait de 2017, mais la première fois que Jean-Luc Mélenchon brigue l'Élysée, c'est 5 ans plus tôt, en 2012. Et moi, ce que j'ai observé...
C'est le Front de Gauche.
Et à l'époque, il est le candidat du Front de Gauche, du Parti de Gauche, qui est l'un des trois piliers d'une composante qui regroupe aussi le Parti communiste et puis d'autres petits groupes militants. Et je trouve que, quand on compare sa campagne de 2012 à celle de 2017, on voit quand même des modifications sensibles qui se notent, par exemple, c'est tout bête, mais regardez les affiches de campagne de 2012, elles sont rouges. En 2017, elles sont plutôt un bleu un peu neutre. En 2012, Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la vraie gauche, de l'autre gauche, de la gauche de la gauche, celle qui est à la gauche du Parti socialiste, alors que en 2017, cette rhétorique de la gauche, elle n'est pas abandonnée, contrairement à ce qu'on entend souvent, mais elle va être plutôt retraduite dans un langage qui est davantage le langage du peuple. Voilà, au lieu de parler de la classe ouvrière, on va parler des citoyens, au lieu de pointer du doigt les capitalistes, on va pointer du doigt l'oligarchie.
Oui, vous dites que ce couple peuple-oligarchie, on va en reparler forcément, en fait, il se substitue pas au discours de gauche, mais il retraduit en fait le discours de gauche.
Il s'y articule en fait. Jean-Luc Mélenchon en 2017, ce qu'il essaye de faire, c'est pas d'abandonner la gauche, c'est de reconnecter la gauche au peuple. Quand on analyse ses discours de l'époque, c'est très flagrant. Il y a toujours des références à la classe ouvrière, il y a même des références à Marx. D'ailleurs, pendant toute la campagne, il porte un petit écusson rouge, un triangle rouge en fait sur sa veste, en souvenir des victimes communistes du franquisme. Donc il s'inscrit encore pleinement dans l'histoire de la gauche, mais voilà, il a bien compris que la gauche a un quinquennat Hollande, elle est quand même assez mal perçue pour tout un tas d'électeurs et de citoyens. Et donc, si on veut essayer de ramener aux urnes ces anciens électeurs de gauche qui sont petit à petit devenus abstentionnistes, il va falloir leur parler un peu différemment. Et pour s'adresser à eux, essayer de les séduire, il va adopter cette grammaire, disons, populiste.
Et pour vous, on y est encore aujourd'hui?
Et on y est pleinement. Il faut se rappeler quand même qu'en 2017, alors il y a évidemment la grande surprise de 2017, c'est Emmanuel Macron, mais derrière, l'autre grande surprise, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui arrive à 600 000 voix du second tour. C'est la première fois depuis 1969 qu'un candidat à la gauche du Parti socialiste réunit autant de voix. Enfin, c'est une réussite. D'ailleurs, quand on fait des sondages auprès de l'ensemble des électeurs français, qu'ils soient de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le centre, tous s'accordent à dire que la campagne de Jean-Luc Mélenchon est la plus réussie des 11 candidats en 2017. Et donc moi, de ce que je vois, de ce qui est aujourd'hui en train de s'expérimenter à 6 mois de la campagne de 2022, j'ai plutôt l'impression que les recettes de 2017 qui avaient quand même plutôt porté leurs fruits, vont être à nouveau appliquées 5 ans plus tard, moyennant évidemment quelques actualisations et ajustements, c'est normal.
Mais le sens de ma question, c'était aussi le fait que, entre-temps, il y a eu des concessions à l'Union de la Gauche, parce que tout ce discours-là, c'était aussi une ligne d'indépendance stratégique vis-à-vis du PS, parfois d'autres partis de gauche, en disant, voilà, on ne fait pas la soupe des logos, la tambouille, tout ça. Mais il y a eu des concessions à ça, à certains scrutins, et pour vous, ça, c'est plus des petits déplacements tactiques qui remettent en cause cette grande orientation populiste.
C'est vrai qu'il y a eu ces concessions, notamment à des scrutins intermédiaires, au régional et au municipal, où voilà, il y a eu des listes communes, bon, parfois d'ailleurs qui se présentaient plus comme des listes citoyennes que comme des coalitions partisanes. Mais fondamentalement, en 2022, là, tout semble indiquer que Jean-Luc Mélenchon va à nouveau se présenter seul, hein, et non pas à la tête d'une union, quel que soit le périmètre de cette union, hein, mais voilà, il va se présenter seul. Et puis surtout, comme vous le dites très bien, je pense qu'il faut faire une distinction, c'est le populisme de gauche, c'est une stratégie. C'est-à-dire, c'est un plan de bataille sur le long terme pour conquérir le pouvoir. La question de savoir si on fait des unions ou pas avec voilà des communistes, des écologistes, des socialistes ou d'autres, ça c'est une question tactique de plus court terme en fait.
Arthur Borriello, dans son livre, Manuel dit qu'il parle du populisme de gauche exclusivement. Alors vous qui naviguez dans toutes ces luttes pour la définition du populisme, il se trouve qu'il y a beaucoup de chercheurs, d'intellectuels qui au contraire ont une définition du populisme qui peut avoir des variantes et de droite et de gauche. Voilà, qu'est-ce qui se joue dans ce choix-là de dire le populisme peut être ancré ou pas dans une seule tradition. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la compréhension qu'on a du populisme ?
Pour commencer, je suis assez d'accord avec ce que Manuel pointe dans son livre, qui a deux écueils principaux lorsqu'il s'agit de définir le populisme. Le premier, ce serait d'avoir une définition trop large, et donc on se retrouve avec...
N'importe qui est populiste.
Voilà, et ça veut dire personne qui ne l'est, hein, puisqu'un concept qui peut signifier tout et son contraire n'est pas un concept opérant. Ensuite, le deuxième écueil, c'est l'écueil contraire, c'est l'idée d'avoir une définition trop étroite et où on finit par ne désigner par ce concept qu'un nombre très restreint de mouvements politiques. En gros, la littérature, enfin les points de vue dominants dans la littérature sur le populisme tombent plutôt dans le premier écueil que dans le second, et on dirait que les points de vue hétérodoxes ont tendance parfois à tomber plutôt dans le second. Ce que Manuel fait dans le cadre de son livre, à mon avis, au risque d'être un petit peu malicieux, c'est d'escamoter un petit peu en réalité cette question en se focalisant uniquement sur le populisme de gauche et en restant volontairement agnostique sur ce que serait le populisme comme concept plus large.
Ouais, oui, parce que je fais une parenthèse, vous affirmez que vous parlez du populisme de gauche, mais tout en disant en même temps le mot populisme tout court, je m'en méfie et je ne veux pas l'utiliser. Donc c'est assez marrant, mais je vous laisse poursuivre.
Là-dessus, je pense effectivement que c'est un petit problème sur le plan, on va dire, purement logique, en fait, hein, de convoquer un syntagme avec deux termes et... En récusant à moitié l'un des deux, au final, bon, ça veut dire qu'il y a quand même une forme de définition implicite du terme de populisme qui est convoqué dans un syntagme comme populisme de gauche. Mais surtout, si on se focalise sur le populisme de gauche sans le replacer dans l'histoire plus large du populisme en général, à mon avis, on se prive d'un outil intellectuel majeur, probablement de l'outil intellectuel principal pour comprendre ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec le populisme de gauche. Cela dit, je suis tout à fait d'accord sur l'appellation populisme de gauche et son application au mouvement qu'il décrit. La France insoumise, Podemos en particulier, hein, sont les deux archétypes dans la vague européenne des années 2010. Mais je crois qu'il faut le voir comme une hybridation entre deux traditions qui sont différentes, le populisme et le socialisme, hein, pour faire court, chacune ayant leur propre trajectoire historique, leurs caractéristiques sociologiques et leur répertoire idéologique.
Alors, est-ce qu'on peut dire un peu concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent, justement la spécificité du populisme par rapport au socialisme ? Parce que parfois, justement, comme on l'applique à des mouvements très différents, ça c'est l'écueil que vous évoquiez tout à l'heure, hein, on le généralise un peu trop, du coup on se dit, bon, bah ok, à part opposer le peuple et les élites, qu'est-ce que c'est d'autre que le populisme ? Ça se trouve, c'est juste un petit artifice rhétorique, et une fois que vous avez ces deux mots dans la bouche, vous pouvez être décrit comme populiste. Est-ce que c'est plus que ça ? Et si oui, qu'est-ce que c'est ?
Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond et substantiel qu'un simple artifice rhétorique. Et je dirais que ça tient en trois points, qui sont un petit peu les points communs du populisme dans ces différentes manifestations historiques et géographiques. La première, c'est le premier point, c'est l'avènement dans une situation, un contexte de crise de représentation démocratique aiguë. Le second, qu'il mentionne très bien dans le bouquin, c'est une mobilisation sociale fortement interclassiste. Hein. Il montre que c'est même la première caractéristique de la France insoumise sur le plan sociologique par rapport à tous ses autres concurrents. Et l'autre point, qui à mon sens est tout aussi fondamental, c'est un répertoire idéologique et programmatique qui s'articule autour de la question démocratique comme question la plus centrale, c'est-à-dire la radicalisation démocratique, ouais. L'extension du domaine de l'égalité des droits, plutôt par exemple que autour de la question capital-travail,
la question de l'écologie, ou enfin...
alors même que et on pourrait ajouter à ça le fait que la question du capital-travail est plutôt pensée en termes d'économie morale que dans les on va dire à partir des concepts et des grilles de lecture du marxisme. Et ça, à mon sens, c'est une différence fondamentale entre la tradition socialiste et la tradition populiste, qui fait que les deux peuvent, ont des points de superposition, de correspondance, mais aussi des points de contradiction et de tension assez importants. Mmh. Et
Donc la jonction n'est pas naturelle, quoi. Et alors justement, ça c'était un autre thème que je voulais aborder. Je me retourne vers vous, Manuel. C'est que vous montrez bien que Jean-Luc Mélenchon, qui vient pour le coup du socialisme, ça c'est très clair dans son itinéraire. Lui, quelque part, il va au populisme. Et vous dites qu'il saisit ce qu'il comprend comme un moment populiste dans l'histoire française, voire européenne. Vous montrez justement à la fois qu'il y a des sortes de déclics, mais presque qu'il y a une sorte d'évolution douce, parce que ce que vous avez décrit tout à l'heure sur le fait que déjà en 2012 il y avait des germes et que quelque part ça trouve sa cohérence en 2017. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des points de repère chronologiques pour ceux qui ont un peu suivi sa trajectoire?
Oui, alors le constat que fait Mélenchon, auquel il arrive progressivement, et je pense qu'il va vraiment acter ça dans deux livres, l'un qui s'intitule « Qu'ils s'en aillent tous, vive la révolution citoyenne » en 2010, et le second c'est « L'ère du peuple ». Alors ça c'est son manifeste à prétention théorique, c'est 4 ans plus tard en 2014, il y a une évolution pendant ces 4 années, mais c'est des années de maturation intellectuelle pour Jean-Luc Mélenchon, ça correspond à la période en 2008, il quitte le Parti Socialiste, il fonde le Parti de Gauche. C'est vraiment des moments où ça bouge pour lui, intellectuellement, dans sa stratégie, et il fait ce constat, c'est que en France, mais pas seulement en France, en réalité pour lui c'est un phénomène quasi planétaire. On est en train de sortir de 3 décennies, en gros, de contre-révolution néolibérale qui ont comme ça sapé les bases de l'État-providence et qui ont aussi creusé la césure entre représentants et représentés. Et le fruit de ces 3 décennies de néolibéralisme, c'est finalement une révolte qui va prendre des visages assez différents d'un pays à l'autre, mais c'est une révolte des classes moyennes et des classes populaires en voie de paupérisation contre les élites perçues comme incarnant la mondialisation financière. Et donc c'est ça qu'il appelle, lui, plutôt que moment populiste, il appelle ça le dégagisme, en reprenant un terme des printemps arabes. Mais bon, son constat de moment
qu'ils
populiste...
Et qu'ils c'est un mot d'ordre d'Amérique latine.
Bien sûr, de la révolution citoyenne de Rafael Correa en Équateur, c'est vraiment ça. Et donc il sent bien que là, la classe politique installée, même y compris de gauche, elle est menacée en fait. Et de fait, on le voit, un indicateur qui nous montre que les partis sociodémocrates, travaillistes sont en train de perdre leurs militants, de perdre aussi leur base électorale. Il sent le vent tourner et donc il va essayer petit à petit de se détacher en fait de cette gauche socialiste issue du siècle passé pour créer quelque chose de nouveau, même si, comme vous l'avez dit, lui, c'est un vieux de la vieille qui a 30 ans de politique professionnelle derrière lui. Et bon, ça c'est son constat. Il n'est pas le seul à le faire. Hein. Dans ces années-là, vous trouvez, moi j'avais recensé plus d'une dizaine de livres en français qui s'intitulent Le moment populiste, l'ère populiste, le tournant populiste des démocraties. Enfin, il y a vraiment plein d'intellectuels qui font ce constat-là. Donc il n'est pas il baigne dans un climat aussi, Jean-Luc Mélenchon. Mais lui, cette idée, il se la forge en regardant ce qui se passe en Amérique latine, parce que c'est vrai que les recettes du Fonds monétaire international, elles ont été appliquées 10 ans plus tôt en Amérique latine par rapport à ce qu'on a eu en Europe après la crise de 2008. Donc il se dit, tiens, est-ce que historiquement parlant, dans les trajectoires comme ça de long terme, l'Amérique latine n'est pas annonciateur de ce qui va se passer en Europe ? Et après les, disons, restructurations néolibérales de l'Amérique latine dans les années 90, il y a eu effectivement au début des années 2000 une percée de ce qu'on a appelé parfois des gouvernements populistes, parfois des gouvernements socialistes du XXIe siècle, c'est-à-dire Hugo Chavez, Evo Morales, Rafael Correa. Il se demande si c'est pas ça ce qui risque de se passer en France et en Europe, et s'il n'y a pas là une opportunité à saisir, d'autant plus qu'il voit bien que juste de l'autre côté des Pyrénées, Pablo Iglesias, qui a été formé aux jeunesses communistes à partir de 14 ans, a décidé de s'émanciper justement d'Izquierda Unida, du parti communiste entre guillemets espagnol, pour créer son propre, sa propre organisation. Et de fait, ça a marché.
Là, on est en 2014. Effectivement, ça décolle très fort. Arthur, en 2019, vous avez donné une interview au journal, à Mediapart, dans laquelle vous affirmiez que la parenthèse du populisme de gauche se refermait. Et c'est assez intéressant parce que voilà, quelques jours avant qu'on tourne cette émission, je suis tombé sur une interview de Chantal Mouffe, donc qui est une philosophe, qui est une grande promotrice du populisme de gauche, qui elle affirme que non, nous sommes toujours dans un mouvement populiste tel que vient de le décrire Manuel, et que ce ne sont pas des revers ponctuels de certaines forces politiques qui invalident le mouvement historique de fond et du coup la pertinence stratégique de ce populisme de gauche. Donc voilà, qu'est-ce que vous lui répondez à Chantal Mouffe? Et surtout, ma question est plus précise, c'est au fond, quels critères on se donne pour définir un mouvement populiste? Est-ce que c'est, je sais pas, des scores électoraux, une ambiance générale, les mouvements sociaux? Comment on définit ça?
Je vous remercie de revenir là-dessus, parce que c'est aussi l'occasion pour moi de préciser un petit peu ma position. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Chantal Mouffe aussi, mais en fait, je pense qu'il faut distinguer deux éléments là-dedans. C'est le moment populiste comme conjoncture, et qui, comme son nom l'indique, est un moment relativement restreint dans le temps et qui est caractérisé par certaines choses. On pourrait dire, en gros, que c'est une situation, une configuration socio-historique spécifique dans laquelle une crise, ça peut être une crise économique,
une crise sanitaire, mais
parfois aussi une modernisation économique rapide et mal vécue par certains secteurs de la population. Enfin, ça peut prendre différentes formes. L'important, c'est la dimension subjective qu'elle prend, c'est-à-dire le fait qu'elle soit perçue, vécue et interprétée par des acteurs politiques comme une crise de nature démocratique, c'est-à-dire touchant à la question de la représentation démocratique. Et ça, c'est très clairement ce que Manuel vient de décrire par rapport à la crise de 2008 et ses conséquences, avec l'impression d'une connivence entre les élites politiques du centre-gauche et du centre-droit autour des politiques d'austérité, pour faire court, et donc avec l'impression qu'il n'y avait plus de canaux d'expression ou de relais des demandes et des griefs de toute une partie de la population, en particulier les classes moyennes paupérisées et les classes populaires que Manuel mentionnait. Ça, ce moment-là, qu'on peut considérer comme une forme spécifique de politisation, à mon avis, est relativement clos, en tout cas celui qui a été ouvert par la grande récession. Mais la spécificité de ce moment en Europe, c'est qu'il n'intervient pas n'importe quand. Il intervient aussi, il s'adosse à des tendances de fond beaucoup plus puissantes, un courant de fond beaucoup plus puissant, qui est celui de la désintermédiation de nos sociétés.
C'est-à-dire décrire ce que ça veut dire, ce terme.
Le déclin des structures de représentation intermédiaires dans les sociétés occidentales.
Les partis, les églises,
les associations, les syndicats. Donc il y a une forme de déclin de ces structures de représentation, mais qui s'opère depuis 3-4 décennies. Et c'est une différence fondamentale entre le moment populiste actuel et des moments populistes historiques, où au contraire
ça
se construisait. Si on pense aux États-Unis de la fin du 19e siècle ou même à l'Amérique latine des années 30 aux années 60, en fait, le populisme à ce moment-là a accompagné le moment de structuration des corps intermédiaires dans la société. Ici, on est dans une situation de déclin et de discrédit de ces structures intermédiaires, auxquelles il faut ne surtout pas être associé, en fait. Et donc, il faut se dissocier de la forme parti, etc., et prendre une forme organisationnelle spécifique qui n'est pas propre au populisme en général, mais à la configuration historique actuelle qu'on connaît en Europe. Et je pense que si on distingue ce moment populiste de cette tendance de fond, on constate que si le moment populiste est clos, par contre, cette tendance de fond, elle se poursuit, elle s'accentue, elle s'approfondit. Et la question qui se pose par rapport à ça, quant au populisme de gauche, c'est est-ce que le populisme de gauche est une forme de solution à cette tendance de fond, ou est-ce qu'il en est le symptôme, l'énième symptôme?
Ouais. Alors, avant peut-être qu'on revienne sur cette question en fin d'émission, donc une question ouverte, évidemment, qu'on ne va pas trancher dans cette émission, je reviens au cas précis de la France Insoumise et à votre travail manuel, parce que vous insistez sur le fait que vous avez fait la sociologie d'un parti et pas la psychanalyse d'un homme. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas vous qui l'écrivez, mais non, je disais ça de cette manière pour vous faire expliquer comment est-ce qu'on peut vraiment distinguer la France Insoumise du leader qui l'a créé. En quoi est-ce qu'il y a autre chose qu'un lien de dépendance entre les deux?
La France Insoumise est beaucoup plus dépendante de Jean-Luc Mélenchon que Jean-Luc Mélenchon ne l'est de la France Insoumise. C'est absolument évident. Lui-même, dans un entretien qu'il avait accordé au journal Le 1 en 2018, se définissait comme la clé de voûte de la France Insoumise. Alors, moi, je ne suis pas architecte, mais il me semble, si j'ai bien compris, que quand on retire la clé de voûte,
ça s'effondre.
Ça s'effondre. Et de fait, je pense que oui. Si la France Insoumise a obtenu un résultat bien plus élevé à la présidentielle de 2017 qu'aux européennes de 2019 ou aux municipales et aux régionales qui l'ont suivi, c'est parce que en fait, les gens se sont ralliés davantage que sur le programme, qui était pourtant le programme le plus fourni, le plus épais des 11 candidats, qui était le fruit d'un véritable travail. Ils se sont fondés quand même, malgré tout, sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, qui a agrégé autour de son nom. Ça, c'est pour parler des électeurs. Et quand on met son nez un petit peu dans la boîte noire insoumise pour essayer de comprendre comment fonctionne ce mouvement, oui, on s'aperçoit que, pour le dire très vite, cette forme mouvement qui prétend dépasser la forme partie, parce que celle-ci serait obsolète, embrigaderait les individualités, endoctrinerait, etc. Mais en fait, cette forme mouvement, elle est peut-être même en régression par rapport à la démocratie intrapartisane. Je veux dire, tout tourne autour. Moi, j'appelle ça la société de cour. Ça tourne autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui a en main toutes les prérogatives essentielles au niveau stratégique, au niveau économique, au niveau de la visibilité. Donc, oui, si votre question vise à me faire dire que voilà, c'est une espèce de pyramide qui repose sur sa pointe, ça c'est évident. Après, ce qu'il y a, c'est que malgré tout, la pyramide, elle existe quand même, et je trouvais dommage de s'en tenir à la personne de Jean-Luc Mélenchon. Bon, d'abord parce qu'il existe déjà facilement une dizaine d'ouvrages qui essayent de décrypter. Est-ce que c'est un apprenti dictateur ou un démocrate radical? Est-ce que c'est un vieux manipulateur ou un stratège extrêmement fin? Est-ce que il est bon ou mauvais? Enfin voilà, qui sonde un peu les tréfonds de son âme. Parfois c'est intéressant, d'autres fois moins. Mais voilà, je trouve que une fois qu'on a dit tout ce que je viens de dire, on peut quand même constater que il y a environ, c'est difficile à évaluer, mais il y a, bon, déjà, il y a plus de 500 000 personnes qui ont cliqué pour soutenir sa campagne en 2017. J'estime qu'il y a environ une centaine de milliers de personnes qui, quand même, pendant plusieurs mois, ont milité sur le terrain pour cette candidature. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique en France qui réunit 100 000 militants, je parle de militants, hein, des gens qui participent à des réunions, des actions locales, pas des adhérents. Eh ben, on se dit quand même, il a réussi, même si ça a été bref, même si ça a été juste le temps d'une campagne présidentielle, il a réussi à faire revenir au militantisme un certain nombre de personnes. Et ces gens, du coup, méritent qu'on s'intéresse à eux pour essayer de comprendre d'où ils viennent, quelles sont leurs trajectoires, quelles sont leurs visions du monde, quelles sont leurs activités militantes.
Je rebondis là-dessus. Vous parlez des ambivalences du charisme mélenchonien. Ça m'a intéressé parce que pour vous, c'est un charisme... Enfin, vous êtes assez nuancé hein, dans ce passage et vous dites, voilà, c'est un charisme qui peut être carrément émancipateur, mais il a aussi sa part d'arbitraire, il peut même provoquer un désarroi assez profond. Est-ce que vous avez des exemples de ça?
Oui. Alors, juste pourquoi est-ce que ce charisme peut susciter de l'arbitraire? Ça, c'est, je reprends juste une vieille idée de Max Weber. Hein. Vous savez, il y a trois types de pouvoir. Hein. Il y a le pouvoir rationnel,
légal, début du XXe siècle.
Le pouvoir traditionnel qui s'hérite. Et puis, il y a le troisième pouvoir, le pouvoir charismatique. Et effectivement, le pouvoir charismatique, par définition, il repose sur les performances du leader. Et donc, en fait, il s'affranchit de règles. Ça, c'est le point important. Et du coup, ça permet effectivement... La fascination, ça permet aussi, du coup, une forme de... Le terme de manipulation est trop important. Mais voilà, il y a une emprise, une influence, effectivement, du leader sur ses troupes qui est quand même importante. Mais je pense que on peut pas s'en tenir à cet aspect-là du tableau, parce qu'en même temps, moi, à travers notamment les entretiens que j'ai pu réaliser avec tout un tas de militants, on se rend compte qu'il y a une forme de... Ouais, c'est pas une identification à la figure du leader, c'est un peu moins fort que ça, mais il y a une forme d'affinité qu'il existe une forme de résonance entre ce que j'ai vécu, moi, militant ou militante insoumise, ce que je connais, ce que je pense et ce que pense, ce que dit, ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Parfois même des gens qui me racontent en fait une relation forte à Jean-Luc Mélenchon, alors même qu'en personne, ils l'ont jamais côtoyé, peut-être vu de loin, mais pas plus que ça. Et si vous voulez, ça... Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres expériences populistes. On parlait notamment de l'Amérique latine, voilà, des années 30, des années 40. On a d'autres grands leaders comme ça qui ont pu avoir cet effet de peut-être de débloquer des choses chez les militants, de les pousser vers l'action, de leur ne serait-ce que transmettre des formes d'affect qui poussent à se mobiliser. Et ça, oui, c'est des choses que j'ai observées dans les entretiens.
Arthur, est-ce qu'on peut revenir sur cette question justement du charisme, parce qu'on parlait tout à l'heure des batailles de définition qu'il y avait autour du populisme. Est-ce que cet élément-là, vous ne l'avez pas cité, quand vous m'avez cité les trois piliers du populisme, vous n'avez pas cité cet élément du leadership charismatique qui est mis en avant par beaucoup de chercheurs, pourtant, et c'est vrai qu'il y a des mouvements historiques qui ont été étiquetés populistes qui n'avaient pas ce genre de leadership. Certains ont parlé de populisme à propos des gilets jaunes où, typiquement, il n'y avait pas de leadership, en tout cas celui-ci n'était pas accepté. Donc pour vous, c'est si j'essaye d'aller jusqu'au bout de la logique, c'est un ingrédient qui est presque périphérique, en tout cas ou dont on peut se passer, quoi.
Oui, tout à fait. J'irai dans ce sens-là. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Manuel sur le rôle de Mélenchon par rapport à la France insoumise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des exemples historiques et contemporains de populisme sans la présence de ce leader charismatique. On pense au populisme nord-américain et russe de la fin du 19e siècle. On peut penser aux Gilets jaunes actuellement, et qui pour plein d'autres raisons tombe pleinement dans la catégorie du populisme, en tout cas tel que j'ai proposé de la définir tout à l'heure. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres mouvements politiques aujourd'hui qu'il est difficile de qualifier de populistes, qui présentent la même caractéristique d'une grande dépendance au leader. La clé de voûte
de La République en Marche, il s'appelle Emmanuel Macron.
Ouais. Voilà. Et cette relation de dépendance inversée entre la machine partisane et le leader politique, on voit cela apparaître non seulement dans des nouvelles formations politiques telles que la France insoumise, la République en marche, mais peut-être de façon encore plus intéressante dans de vieilles formations politiques qui étaient l'archétype des structures partisanes solides. Je pense au Parti libéral belge, le contexte belge étant l'un des contextes nationaux où par excellence les partis, les structures intermédiaires résistent encore. Mmh. Eh bien, il suffit de voir la manière dont Georges-Louis Boucher a essayé de court-circuiter son propre parti en instaurant une relation directe avec ses électeurs, ses followers sur les réseaux sociaux, pour voir à quel point cette transformation est beaucoup plus générale et touche des mouvements politiques bien au-delà de la sphère de ce qu'on appelle les mouvements populistes. Alors maintenant, plus spécifiquement sur le populisme et ce rapport leader-mouvement, j'ai l'impression que c'est lié à ce que je disais précédemment sur le fait de qu'aujourd'hui le populisme privilégie des structures organisationnelles souples, légères, verticales. En fait, on peut dire à structure faible, leader fort, qu'en fait la force et l'importance du leader dans le mouvement n'est jamais que le miroir inversé de la faible structuration de ce mouvement, et son importance est d'autant plus grande que effectivement, il incarne la clé de voûte, ce qui permet à un mouvement assez hétérogène, finalement, de tenir ensemble.
Ouais. Alors, du coup, ça pose la question de la démocratie interne. Je reviens quand même, et j'aimerais insister sur ce point avant de conclure l'émission, parce que, Manuel, vous avez des termes assez forts, en fait, dans le livre. Vous parlez de liberté sans le pouvoir pour les participants, les membres de la France insoumise. Vous parlez d'absence de pluralisme, d'opacité, de culte de la personnalité. Ces ingrédients, on les trouve aussi dans d'autres partis, mais est-ce qu'il y a une combinaison originale dans le cas de la France insoumise, ou qui est profondément contradictoire avec son message ?
Oui, il y a quelque chose d'original. Il y a quelque chose d'original, c'est que la France insoumise s'est construite à partir, avec le contre-modèle. Le contre-modèle, c'est les partis politiques, et en particulier, il y a un parti qui fait figure d'épouvantail, c'est le Parti socialiste. Mais d'ailleurs, il fait figure d'épouvantail pour les insoumis comme pour La République en marche. Et à ce titre, vraiment, j'y insiste, quand on laisse un peu de côté les idéologies ou les programmes de Macron et de Mélenchon, on voit que leurs deux mouvements présentent des homologies de fonctionnement qui sont quand même qui sont quand même assez poussées. L'une d'entre elles, par exemple, c'est que tout à l'heure, Arthur parlait de désintermédiation de nos sociétés occidentales. Cette désintermédiation, on la retrouve, c'est une de ces manifestations, à l'intérieur même des mouvements du type La République En Marche et La France Insoumise, où vous n'avez plus de secrétaire de section, de secrétaire départementaux, bref, tous ces cadres, en fait, intermédiaires des partis qui étaient élus par leur base. Aujourd'hui, ils ont disparu à La République En Marche et à La France Insoumise. Il n'y a plus de cadres intermédiaires. Et les cadres nationaux, ce n'est pas des gens qui ont été élus lors d'un vote en congrès. C'est des gens qui ont été tout simplement cooptés, sélectionnés sur CV à La République En Marche ou bien sur simple affinité personnelle avec le leader à La France Insoumise. Donc là, oui, on a quelque chose, on a une structure. Jean-Luc Mélenchon la qualifie de gazeuse. Mmh. elle est insaisissable, en fait. Elle est insaisissable. Et moi, j'ai même cette expression dans le livre. Je dis que les stratèges insoumis, quand ils ont construit leur mouvement, ils ont organisé la désorganisation du mouvement. Je crois que c'est vraiment ça. Quand on leur demande comment ça fonctionne, ils n'arrêtent pas de nous expliquer que c'est en évolution permanente, que on institutionnalisera ça plus tard. Mais en fait, c'est bien pratique qu'il n'y ait pas de procédure, de règles un peu figées, puisque quand quelqu'un, un militant, une militante vient vous demander des comptes, en fait, il ne peut pas vous demander des comptes, puisque précisément des comptes par rapport à quelles règles, par rapport à quels principes. Par rapport à quel statut qui n'existe pas.
Alors, Arthur, vous pouvez réagir éventuellement aussi. Manuel, est-ce que ce défaut de démocratie interne, est-ce que, il est justifié, notamment par des principes d'efficacité, notamment dans les moments électoraux, et d'une certaine manière, ça a été confirmé au moins dans certains cas. Mais est-ce que c'est un au-delà des jugements qu'on peut avoir, on peut considérer que la démocratie interne est un bien en soi. Hein. Mm-hmm. Mais si je me place justement sur ce terrain de l'efficacité, est-ce que ça bloque pas un ancrage un peu plus durable dans la société, dont on voit bien que c'est un peu la pièce manquante de ces mouvements-là. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre ces deux éléments?
Bien sûr. Je dirais que du point de vue de l'efficacité, en fait, il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est que lorsqu'un mouvement est dépendant de son leader, il l'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, Manuel en parlait tout à l'heure, le formidable charisme de Mélenchon, sa capacité à concentrer un investissement affectif très important et à motiver une grande partie des militants. Beaucoup de militants et de cadres de la France Insoumise disent qu'ils y seront rentrés pour Mélenchon, à travers vraiment... Sa figure est absolument centrale dans les raisons même de leur engagement. Maintenant, ça peut se retourner contre lui, au sens où c'est la meilleure arme, ça devient le point vulnérable pour attaquer le mouvement dans son ensemble. On l'a vu avec Podemos et l'affaire de la villa de Pablo Iglesias, l'affaire des perquisitions, évidemment, de Mélenchon est un petit peu du même ordre, c'est-à-dire qu'à travers, en ciblant le leader, on finit par cibler le mouvement dans son ensemble et ça finit par déteindre sur le mouvement dans son ensemble. Ensuite, le deuxième élément, c'est celui que vous mentionniez, c'est le fait que ce statut du leader le fait lutter activement contre la structuration du mouvement. On a observé ça très fort dans le mouvement 5 étoiles avec Beppe Grillo de façon constante un frein à la structuration et à la normalisation du mouvement 5 étoiles. Et là, c'est très clair que Mélenchon joue ce rôle-là dans la France insoumise pour les raisons que Manuel signalait. C'est-à-dire que, en fait, il y a un désir de ne pas voir apparaître de courant structuré et parce qu'il y a la hantise d'être mis en minorité quelque part, comme ça a failli arriver au sein du parti de gauche dans les années 2010.
Juste avant qu'il fonde la France Insoumise, il a failli à deux reprises se faire renverser au sein de son propre parti, le parti de gauche. Et ça, je crois que ça a été pour lui un déclic,
point d'alerte.
Et là, précisément, l'idée de Mélenchon, c'est d'être au-dessus des conflits internes, de ne pas y prendre part. Ça veut dire ne jamais avoir à rendre de compte par rapport à ça, ne jamais avoir à se positionner, à trancher. Ça veut dire ne pas être discutable non plus dans son statut de leader, puisqu'il ne se considère pas tellement comme le chef du mouvement d'un point de vue pyramidal, mais plutôt comme le liant, ce qui fait tenir tout ça ensemble et qui donc, par définition, ne peut pas être discuté. Mais effectivement, si ça lutte contre la structuration du mouvement, ça veut dire que ça lutte contre la mise en place d'antennes territoriales stables, contre des mécanismes d'institutionnalisation, de règlement des conflits internes, enfin, de tout un tas de structures et de procédures qui assurent la solidité et la durabilité d'un mouvement politique dans le temps. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est un défaut et un frein.
Alors, un des derniers aspects que je voulais aborder, c'est quand même l'aspect idéologique. On l'a effleuré tout à l'heure quand on a parlé des liens entre populisme et socialisme, parce que bon, là, on s'intéresse au populisme de gauche et à la France insoumise en particulier. Arthur, je poursuis avec vous. Comment vous voyez le lien justement entre populisme et transformation sociale? Est-ce que le populisme est un peu condamné à être, parce que certains disent c'est un symptôme, mais c'est aussi un correctif d'une démocratie justement qui va mal. Donc au fond, c'est quelque chose qui viendrait corriger une sorte de mal représentation. Mais du coup, on change pas vraiment l'ordre social. Et donc, est-ce que c'est, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas un peu un frein à des transformations peut-être plus révolutionnaires? Ou est-ce que on peut avoir une compréhension alternative et dire, bah, c'est peut-être un sas, c'est peut-être une étape avant d'aller plus loin. Et là, pour le coup, vers le socialisme. Est-ce que c'est des choses qui sont disputées, justement, parmi les intellectuels que vous avez interrogés dans vos différents entretiens?
Je dirais que ce qui est quand même assez marquant quand on regarde l'histoire du populisme, c'est plutôt le fait qu'il ait joué le rôle de substitut fonctionnel au rôle joué par la social-démocratie en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'héritage du populisme états-unien de la fin du 19e siècle, finalement, c'est le New Deal de Roosevelt. Beaucoup des mesures qui étaient préconisées dans la plateforme électorale du People's Party américain se sont ensuite retrouvées dans l'expérience du New Deal américain. De la même manière, on peut considérer que les mouvements populistes latino-américains du milieu du XXe siècle ont permis l'inclusion de certains secteurs sous-représentés au sein de la société et ont construit les bases d'un État démocratique et d'une certaine inclusion sociale de certaines catégories de la population.
Dans un continent où la social-démocratie n'existait pas comme famille politique.
Voilà. Le contexte actuel est très différent. C'est celui d'un déclin de la social-démocratie et d'un vide à combler de ce point de vue-là. Podemos était explicite là-dessus en disant nous venons réinventer, reprendre la place laissée libre par la disparition de la social-démocratie historique. Il le disait de façon explicite. Donc il y a l'idée quand même de se substituer à cela à travers d'autres méthodes et d'autres... La grosse difficulté, c'est celle que je pointais du doigt auparavant, c'est que dans un contexte qui est celui d'une désintermédiation et donc d'une déstructuration des sociétés occidentales, est-ce qu'il est possible de proposer, de porter un projet de transformation sociale de grande ampleur sans, d'une façon ou d'une autre, réinventer ce qui a fait le succès de la politique de masse au XXe siècle et en particulier le succès de la famille social-démocrate et... ça, c'est quand même assez difficile à imaginer.
Manuel, d'un côté, il y a effectivement le fait que le populisme, quelque part, prend le relais ou la place de la social-démocratie quand elle est défaillante, mais il le fait, dans le cas de la France insoumise, avec des prétentions, pour le coup, de gauche radicale. Vous prenez l'exemple de l'écosocialisme, qui pour le coup, va beaucoup, beaucoup plus loin que l'agenda classique, on va dire, social-démocrate, de compromis social-travail. Là, c'est une transformation beaucoup plus profonde avec l'élément écolo. Et vous montrez quelque chose d'assez paradoxal dans le livre. J'aimerais que vous nous en parliez. Et du coup, quelle leçon vous en tirez?
Oui, sur l'écosocialisme, c'est tout à fait étonnant parce que ce que j'observe, et c'est le paradoxe que vous mentionniez, c'est que... au fur et à mesure des années, et notamment, il y a un indicateur qui permet de s'en apercevoir, c'est quand on compare le programme de 2012 à celui de 2017, il y a vraiment un approfondissement de la thématique écologique et qui est même très étroitement nouée à la question de la justice sociale. Et donc c'est notamment ça qu'on appelle l'écosocialisme, avec en 2017, par exemple, la sortie du nucléaire, alors qu'en 2012, il était plutôt question de faire un grand référendum sur le nucléaire, avec la constitutionnalisation de la règle verte, avec 100% d'énergie renouvelable en 2050, avec aussi des thématiques tout à fait nouvelles qui apparaissent en 2017, comme aller vers une alimentation moins carnée. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon, ça c'était pour la petite histoire, mais dans Gala, me semble-t-il, avec sa salade de quinoa, mais il y a, en vrai, il y a un approfondissement des thématiques. Et en même temps, au même moment, on voit que la référence et l'étiquette d'éco-socialiste qui était fortement mobilisée à l'époque du parti de gauche, hein, c'était le triptyque du parti de gauche, c'était écologie, république, socialisme. Le drapeau, d'ailleurs, il était rouge et vert. Il était rouge au départ, et puis très rapidement, il devient rouge et vert. Eh bien, en fait, ces références-là vont être, pour le coup, abandonnées. Pourquoi ? Je crois que c'est simplement pour des questions de lisibilité. L'écosocialisme est un terme qui est bien connu dans les milieux militants et puis intellectuels, mais qui, testé à une échelle assez large, est mal compris à tel point qu'on, quand on en demande une définition, on entend par exemple souvent que éco renvoierait plutôt à économie, alors que c'est écologie dans l'écosocialisme. Donc il y a des malentendus sur les termes. Et ça, si vous voulez, les dirigeants de la France insoumise en sont parfaitement conscients. Ils font un travail hein, que moi j'ai perçu là-dessus, mais perçu sur tout un tas d'autres sujets. Sur, il y a un vrai, c'est des communicants, et c'est des bons communicants qui testent en fait leur mot-valise, leur mot-cible pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ils ont commandent des sondages aussi pour évaluer leurs mesures, savoir si elles sont bien comprises, bien acceptées de la population. Et donc, en ce sens-là, puisque vous demandiez à Arthur, est-ce que finalement le populisme constitue une menace qui pourrait peut-être venir dynamiter l'ordre politique, voire même l'ordre social? Bon, par bien des aspects, moi j'ai le sentiment que c'est davantage un correctif, c'est-à-dire un type de mouvement qui va essayer de faire fonctionner correctement la représentation politique en envoyant dans les assemblées des gens qui ont un salaire médian. Et c'est vrai, à Podemos, à Syriza, à la France Insoumise, on a des parlementaires qui, avant de devenir parlementaires, avaient un salaire égal au salaire médian de la population, qui exerçait des métiers plutôt représentatifs, des métiers qui s'exercent aujourd'hui. Et donc ces gens sont, ouais, ils sont baignés dans leur époque, essayent de colmater les brèches de la démocratie représentative, y compris en reprenant, je parlais de la communication à l'instant, c'était ça le fil de ma pensée, c'est les recettes de la communication politique qui sont utilisées partout aujourd'hui, elles sont utilisées et elles sont avidement utilisées.
La France Insoumise affirme qu'elle porte un programme de rupture, c'est la raison pour laquelle ils disent, hors de question de s'abîmer dans des alliances sans lendemain.
Oui, elle l'affirme. Elle l'affirme parce que pour l'instant, elle est dans l'opposition. Mais quand vous regardez ce que font ses partenaires une fois au pouvoir, c'est soit ils y sont vraiment tout seuls, comme Syriza, à partir de 2015, avec la triste histoire qu'on connaît, mais même Podemos, qui arrive certes dans une position au gouvernement espagnol en 2020 de subordonné, de béquille, finalement, du Parti Socialiste. Bon, une fois que ces partis-là sont au pouvoir, ils ont non seulement pas dynamité l'ordre social, si on appelle l'ordre social le capitalisme, mais ils ont même pas non plus dynamité l'ordre politique. Enfin, ils prétendent jouer le jeu de la démocratie représentative et s'y insérer pleinement. C'est pas des gens qui prônent des conseils ouvriers, des ZAD, de la démocratie directe, des mandats impératifs, de la déprofessionnalisation de la politique. Tout ça est absent de leur imaginaire politique.
Pour terminer, du coup, en 2022, là, dans l'élection qui s'ouvre, quel est l'enjeu de ce scrutin est-ce que c'est l'existence de la France insoumise? Est-ce que c'est le destin peut-être d'une sensibilité populiste de gauche en France? Comment vous voyez les choses l'un et l'autre en quelques mots un peu brefs? Vous ne pouvez évidemment pas prévenir l'avenir.
Non, on peut pas le prévenir. Bon, du point de vue l'enjeu, je sais pas, en tant que citoyen, j'en ai aucune idée, mais l'enjeu pour les populistes de gauche, je pense que c'est celui d'une fin de cycle en fait. Ils sont passés pas loin. Si on prend une extension large du populisme de gauche, il y a quand même eu Bernie Sanders deux fois, il y a Jeremy Corbyn qui a été à la tête du Labour pendant 4 ans, il y a eu Syriza au pouvoir, mais pour faire quoi? Podemos qui est arrivé bien trop tard au pouvoir. Enfin, toutes ces expériences ont été défaites ou trahi pour utiliser les grands mots. Et aujourd'hui, la dernière cartouche de ce cycle populiste de gauche qui s'est ouvert en 2008 et en 2010 avec les occupations de places publiques un peu partout aux quatre coins de la planète, qui s'est ensuite déporté vers les urnes, vers la politique institutionnelle et professionnelle sous forme de partis et de noms comme ceux que je viens de citer. Aujourd'hui, je crois qu'elle arrive en fin de cycle, que Jean-Luc Mélenchon est peut-être son dernier représentant d'ampleur. Bon, il a effectivement, on n'est pas prophète, mais il a de faibles chances de l'emporter. S'il est défait, je pense que sa défaite sera pas seulement sa défaite, mais la fin d'un cycle populiste de gauche. Ça n'empêche pas que peut-être il y aura d'autres cycles populistes de gauche comme il y en a eu dans l'histoire, il y en aura peut-être dans l'avenir, Mais oui, je pense qu'on vit un moment décisif pour ce courant politique.
Mmh. Arthur ?
Je suis assez d'accord avec ça. Et puis aussi, du point de vue interne à la France insoumise, on sent bien que dernièrement, la chose, ce qui permet à la France insoumise de continuer, c'est l'espoir ou la fiction, peu importe, enfin, ça dépend si on est optimiste ou pas, d'une, si pas d'un succès, au moins d'un score très honorable à la présidentielle de 2022. Et on voit que beaucoup des cadres et des militants de la France insoumise se raccrochent à cet espoir-là pour justifier aussi les échecs qui ont été accumulés lors des échéances électorales intermédiaires, aux scrutins locaux, régionaux et européens, et que en cas d'une défaite ou d'un score sévère et décevant, il y aurait probablement là une remise en question profonde de cette mouvance politique. Et étant donné sa fragilité qu'on a mise en évidence et sa dépendance à la figure de Mélenchon, on peut imaginer même sa dissolution pure et simple en cas d'échec électoral patent en 2022.
Très bien, merci pour cette échange qui nous introduit pleinement dans ce temps de la campagne présidentielle qui s'annonce. Et c'est en partie grâce à votre livre, Manuel Cervera-Marzal, Le populisme de gauche, sociologie de la France insoumise, aux éditions de La Découverte. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur le site de Mediapart pour les autres grands entretiens du studio.